RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story à la radio et à la télé. Nous sommes ensemble de 9h à midi tous les jours. Si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Et dans un quart d'heure, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui sera en direct avec nous pour manifester sa joie, puisqu'elle aura peut-être gagné le séjour à l'Europa Park. C'est à gagner toute la semaine, un séjour de 2 jours pour 4 personnes. Europa Park, élu 10 fois meilleur parc de loisirs du monde. Plus de 100 attractions et spectacles, plus le parc aquatique. C'est pour vous, vous envoyez Europa par SMS au 732-16. Europa par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Ouais, tirage au sort dans un quart d'heure. Aujourd'hui dans les grandes gueules, le cheminot Bruno Poncé, la prof d'histoire-géographie Barbara Lefebvre, l'éducateur Abel Boyi, et on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est notre confrère Patrick Cohen, le journaliste, auteur de ce livre Les Mystificateurs aux éditions Flammarion, qui est chez nous aujourd'hui dans les GG. Bonjour.
Bonjour les GG.
Alors qui sont ces mystificateurs, ces faux prophètes de la science ?
Ce sont des gens qui sont des médecins, des scientifiques, généralement respectés dans leur domaine, multi-promus, médaillés, qui sortent un petit peu de leur domaine de compétences, qui s'aventurent sur un terrain qui n'est pas forcément leur. Premier exemple, le bouquin commence par là. Claude Allègre, spécialiste de la croûte terrestre, grand géophysicien, et qui s'est mis à divaguer sur le climat et à répandre des choses de façon très péremptoire. C'était au tournant des années 2000-2010, dans ces années-là, et qui a eu une campagne climato-sceptique assez, on l'a oublié, hein, c'était il y a une quinzaine d'années, c'est pas si vieux, mais assez vigoureuse.
Et pourquoi vous aviez envie de dénoncer ces faux prophètes, ces grands scientifiques qui tout d'un coup racontent un peu tout et n'importe quoi sur des plateaux et aux télé?
Bon, c'est venu au sortir de la crise Covid.
C'est Didier Raoult.
Envie de parler de Didier Raoult et du Covid, mais sans parler de Didier Raoult, parce qu'on avait quand même un peu épuisé le sujet. Mais en travaillant sur le Covid, je me suis rendu compte, et au fil des chroniques que j'ai pu faire à cette époque-là, qu'il y avait dans l'histoire des sciences et de la médecine tout un tas d'épisodes qui rappelaient le profil, le même mécanisme de manipulation, de mystification. On trouve plein de points communs, notamment dans l'attitude. Je parlais d'Allègre il y a un instant. Mmh. Allègre a répété sur tous les plateaux où il était confronté à des climatologues, des vrais climatologues. Écoutez... personne ne m'arrive à la cheville, je suis le scientifique le plus diplômé dans mon domaine, etc. Donc il y avait l'argument d'autorité qu'on a retrouvé, qu'on a entendu dans la crise Covid. C'est qu'un exemple, mais on retrouve à chaque fois des traits de caractère, des comportements et des mécanismes, souvent l'irruption du politique aussi, beaucoup dans ces histoires-là.
L'importance parce qu'il y a des voix médias. À gagner pour lui dans ces cas-là.
Pardon.
Parce qu'il y a des voix à gagner pour lui.
Là, il était plus ministre, il était un peu sorti de la politique. Il y avait surtout, il vendait des livres.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'irruption du politique quand il voit qu'il y a une personnalité qui émerge.
Bien sûr.
Et qui draine du monde. On a vu Emmanuel Macron aller voir le professeur Raoult. On s'en souvient pendant la crise Covid, quoi.
Évidemment, et c'était un geste politique davantage que un credo scientifique.
Parce que les propos de ces scientifiques sont séduisants. Ils remettent en cause la doxa, ils remettent en cause le message officiel. Et on se dit, finalement, c'est peut-être eux qui ont raison dans un monde où les élites sont quand même régulièrement justement critiquées, accusées de défendre des choses qui sont pas la vérité. Didier Raoult, quand il racontait l'inverse de ce que pouvait raconter le professeur Delfraissy, on se dit c'est peut-être lui qui a raison.
Évidemment, c'est la mécanique médiatique dont on fait tous partie. Je dis souvent, il y a rien de plus ennuyeux que le consensus scientifique. Le 95% des scientifiques sont d'accord pour dire que vous écoutez ça d'une oreille distraite, même si souvent c'est porteur d'espoir pour soigner des maladies. Mais si vous mettez face à face ce consensus scientifique avec une opinion hétérodoxe, différente, même marginale, mais du type qui promet de vous faire des révélations sur des choses qu'on vous cache parce qu'on vous ment et que on a un médicament d'un prix très modique qui va soigner la maladie, évidemment ça vous fait dresser l'oreille de façon différente.
Barbara.
Oui, vous avez vous soulignez d'ailleurs par exemple l'exemple de Lysenko en URSS hein, qui avait préféré bannir la génétique au profit, je cite, de la biologie prolétarienne. On voit que la science soviétique,
parce que vous continuez. La génétique, c'était une science bourgeoise.
Voilà. Donc, on voit bien que l'idéologie, au-delà même de la question de l'intérêt politico-politicien, la biologie a son rôle là-dedans. Maintenant, vous attaquez un petit peu Alec, vous dites que oui, à un moment, il avait dit qu'il revendique le droit au doute sur la question notamment du CO2. Mais le doute, ça fait aussi partie de la science. L'esprit scientifique, c'est l'esprit du doute aussi. Heureusement que les scientifiques sont là pour remettre en cause ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. C'est comme ça que la science avance. Donc, il y a un certain nombre... C'est comme ça que la recherche avance.
Mais il y a un corpus scientifique...
Qui s'appuie sur le consensus académique.
Exactement, qui lui ne se conteste pas. La Terre est ronde.
Oh, vous savez, la Terre est ronde.
Ah si.
Et pourquoi Claude Allègre encore ?
Venez dans certains collèges, vous verrez grâce à TikTok, la Terre est plate. Hein. Bon, mais vous vous intéressez effectivement à la question du Covid, mais vous soulevez pas tellement non plus moi une question sur la question du Covid que je trouve majeure et qui me semble-t-il n'intéresse plus grand monde. C'est l'origine du Covid.
Oui.
Parce que certes, il y a peut-être eu quelques charlatans, mais les gros charlatans, par contre, eux, ce qui ne veulent toujours pas nous dire quelle est l'origine du Covid, notamment le fait qu'on continue et qu'un certain nombre de virologues, d'ailleurs massivement, continuent de couvrir Shi Zhengli, qui est la directrice de l'Institut de virologie de Wuhan, qui quand même aurait des liens avec des groupes, y compris des virologues américains, qui auraient fait des gains de fonction sur la question des coronavirus.
Je suis entièrement d'accord avec
vous. Ce serait intéressant qu'aujourd'hui, on continue à creuser la cause du Covid.
Comment ça se fait qu'il y a encore ce mystère?
Entièrement. Tout simplement parce que les Chinois ont tout verrouillé. Parce que on n'a pas accès aux sources, qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup enquêté. Barbara, c'est l'une des questions les plus débattues et les plus controversées dans le monde de la virologie et des biologistes. Moi, j'ai fait plusieurs chroniques, dont une de façon assez précoce à l'émission C'est à vous sur l'origine du SARS-CoV-2, qui est le nom du virus du Covid, en laissant ouvertes les portes d'une manipulation
de laboratoire.
De laboratoire, exactement, d'une erreur de laboratoire qui a mal tourné. J'ai reçu, c'est l'une des chroniques qui m'a valu le plus de courriers, de protestations, de dénigrements sur les réseaux. C'était affreux. Et en même temps, avec une partie de la communauté scientifique qui soutient le doute sur cette histoire, parce que la genèse de l'histoire, c'est que dès le départ, il y a eu ce soupçon à l'égard des Chinois et les gens qui émettaient ce soupçon ont été traités de complotistes. Et c'était effectivement une erreur. Mais c'est pas l'objet du livre.
C'est la question du doute, du fait de toujours remettre en question. Ça fait partie de la démarche scientifique.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parmi l'équipe de la plus puissant pays du monde, il y a quand même quelqu'un qui remet tout en doute, c'est-à-dire Robert Kennedy Jr. Vous lui consacrez un chapitre d'ailleurs.
Les anti-vax ont pris le pouvoir, sont au pouvoir aux États-Unis. Effectivement, c'est l'affaire la plus actuelle, c'est celle qui termine le bouquin, l'affaire Wakefield, du nom de ce chirurgien britannique qui n'a pas cru, hein, c'est une escroquerie, on le raconte bien dans le chapitre, mais qui a dit au monde en 98, d'abord à la Grande-Bretagne, qu'il y avait un lien entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme chez les enfants. C'est un vaccin qu'on administre aux jeunes enfants, aux nourrissons, qui a entraîné une chute de vaccination. Il y a eu 10 ans de polémique en Grande-Bretagne. Ce toubib s'est exilé ensuite aux États-Unis. Il est interdit d'exercer en Grande-Bretagne, où il a fait des émules, notamment Kennedy Jr., qui est aujourd'hui ministre de la Santé, et Donald Trump lui-même, qui a repris ce bobard dans un des débats de la campagne présidentielle de 2016. Vous vous rendez compte, on injecte des trucs à ces petits bébés, et ensuite ils deviennent autistes. Et aujourd'hui, la rougeole qu'on croyait éradiquée aux États-Unis il y a 20 ans, fait un regain avec des milliers et des milliers de cas aujourd'hui.
La question des adjuvants dans les vaccins est toujours posée. Non, mais c'est une question que se posent aussi des scientifiques sur la question de certains types d'adjuvants.
L'aluminium, non, plus maintenant.
Il y a encore des gens qui se posent des questions.
Moi, il y a, en lisant votre livre, il y a un nom qui est revenu dans plusieurs chapitres, sur celui sur Alex, sur lui sur aussi sur le remède miracle contre le sida, c'est Jean-Nicolas Dufoy. Oui. Alors moi, ma génération, Jean-Yves Dufoy nous a nettement marqué.
Il faut rappeler Georgina Dufoy.
C'est l'affaire du sang contaminé. Voilà.
Sang contaminé. Et ministre. Quand on voit qu'elle protège aussi Allègre dans ses dénégations, que derrière, sur l'histoire du traitement sur le sida, elle n'est pas non plus, elle fait pas son rôle de ministre de la Santé. Moi, je me rends compte à ce moment-là que ça me percute et je me dis oui, effectivement, cette dame, aujourd'hui, on l'a tous en oublié. On a même vu Fabius arriver au Conseil constitutionnel. Mais moi, ma génération était marquée par le sang contaminé. Je sais pas si vous êtes dans l'âge. Moi, j'ai 53 ans.
L'affaire du sang contaminé.
Moi, quand j'étais jeune, le sida commençait à arriver et on nous a quand même fait croire qu'à un moment donné, c'était pas si grave que ça et qu'on pouvait le soigner avec une aspirine. Moi, je trouve que ce nom-là devrait être un petit peu aujourd'hui remis un peu devant pour qu'on se rappelle un peu ce qu'elle a fait aussi.
Je suis pas sûr qu'elle était dans l'histoire du sang contaminé.
Il y a votre nom dans le sang contaminé avec Fabius, bien sûr que si. Elle est ministre de la Santé à l'époque.
Il me semble que c'était Edmond Hervé, mais enfin.
Responsable, mais pas coupable.
Elle est au tribunal, en fait. Quand ils sont jugés, elle est.
Ah oui, vous avez raison. Absolument.
Ou elle sort la fameuse phrase.
Pardon, vous avez raison. Oui, alors Georgina Dufoy, elle a, comme ministre de la Santé, été une propagandiste active en faveur de ce qu'on appelle la médecine parallèle. Les médecines douces, y compris l'homéopathie, on le rappelle dans le bouquin. Et en tout cas, sur l'affaire de la cyclosporine, c'est-à-dire ce médicament miracle dont une équipe de médecins de l'ANEC a cru que ça allait pouvoir traiter, soigner le sida. On était aux prémices de l'épidémie de sida, 85. Effectivement, elle impulse une communication prématurée, quelque chose de pas raisonnable et une conférence de presse qui se révèle absolument désastreuse.
Et catastrophe. Abel Bouilly?
Alors moi, je trouve que le cas de Claude Allègre exprime parfaitement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, un scientifique réputé, une reconnaissance politique, mais vous expliquez que c'est à partir de cette reconnaissance politique, et il se révèle lui-même puisqu'il touche à la politique comme une sorte de showman en fait, donc il y a le canal médiatique plus la part des gens qui doutent un peu de tout. Mais quand vous parlez de mystificateur, à quoi pensez-vous? Parce qu'un mystificateur, c'est pas quelqu'un qui pense à quelque chose et qui refuse de reconnaître qu'il s'est trompé. C'est vraiment le manipulateur qui sait, dès le début, qui va emmener les gens vers une fausse route.
Alors, vous avez raison, et tous les cas, toutes les histoires qu'on raconte dans ce bouquin ne rentrent pas, ne s'accordent pas avec le mot de mystificateur. Parce qu'il y a des gens sincères là-dedans. Voilà. Philippe Even, la cyclosporine, il y croyait même.
Jacques Benveniste, c'était un homme tout à fait sincère.
Absolument, était tout à fait sincère. Simplement, ce sont des gens qui se sont assis sur les protocoles scientifiques et qui ont grillé les étapes ou qui se sont enferrés dans une croyance qui n'était pas raisonnable.
Il n'arrivait plus à sortir, comme cette fameuse théorie sur la mémoire de l'eau.
La mémoire de l'eau,
qui a alimenté, mais pendant des décennies, justement, des fantasmes sur l'eau à la mémoire, l'eau est vivante,
oui,
etc.
Mais les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, ça a permis aussi de fermer des pistes, d'en ouvrir d'autres. Les travaux scientifiques, même quand ils aboutissent à une impasse, sont intéressants.
À condition de reconnaître que c'est une impasse.
Oui, mais Benveniste, il s'est fait littéralement écharper. Enfin, je veux dire, ça lui a coûté la vie quand même. On en a fait
parce qu'il s'est enferré.
Mais c'était peut-être aussi un problématique d'ordre psychologique, mais de l'avoir traité comme on l'a traité, à le finir dans un quasi-placard, excusez-moi, c'est une façon inadmissible de traiter un grand scientifique.
Pendant 10 ans, jusqu'à un épisode que j'ai pas raconté dans le chapitre, parce qu'il a Georges Charpak, prix Nobel, l'a accompagné, s'est intéressé à essayer de comprendre ce qu'il voulait trouver. Je rappelle d'un mot pour les auditeurs, quand même, c'est important. La mémoire de l'eau, c'est l'idée d'un effet moléculaire sans molécules. C'est-à-dire que l'eau serait capable de conserver le souvenir de substances actives avec lesquelles elle a été en contact, mais qui ont disparu depuis. Et donc, ça valide le principe de l'homéopathie. Si c'est accepté, c'est-à-dire des substances hyper diluées, une hyper dilution et avec quelque chose d'un effet actif. Benveniste a cru pouvoir démontrer que ça
existait. Il a jamais réussi.
Il n'a jamais réussi à le faire. Et ça soulève aussi une autre question, c'est est-ce qu'on peut affirmer quelque chose sans comprendre comment ça marche? Parce que c'est ce qu'il dit à Charpak, et il dit vous n'y comprenez rien, moi non plus, mais ça existe. Voilà. Bon.
Mais il y a autre chose aussi, il y a la responsabilité des présidents de la République, parce que vous insistez sur la complicité politique, même sur le cas de l'immunosuppresseur pour soi-disant guérir le SIDA. Vous parlez de la fascination de la ministre de la Santé.
Ben oui.
S'il n'y a pas François Mitterrand derrière qui dit allez-y aussi.
Alors, je ne sais pas si c'est remonté jusqu'à l'Élysée et jusqu'à François Mitterrand, mais en tout cas, il y a évidemment une imprudence politique. Et
Claude Allègre qui se permet de dire « Je n'écris pas un livre scientifique, mais un livre politique, donc je fais ce que je veux des
oui.
courbes ».
Alors, Claude Allègre, socialiste en rupture du PS à ce moment-là, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On est en 2010.
Alors, Patrick Cohen reste avec nous. On va passer par le 32-16. On a Morgane qui est là, qui est gérant d'entreprise dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Morgane.
Bonjour toute l'équipe.
Morgane, c'est vous qui vous êtes inscrit, c'est vous qui gagnez le séjour à l'Europa Park, Morgane.
Eh bah, vous faites un heureux, vous faites une famille heureuse, ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Deux jours pour quatre personnes, sans attractions et spectacles, le nouveau quartier thématique dédié à la Principauté de Monaco, l'univers aquatique rue Lantica. C'est pour vous, mon cher Morgane.
Eh ben super, je suis ravi, un bon lundi.
Mais voilà, vous allez pouvoir annoncer ça à toute la famille, c'était le coup de bol du jour, mon cher Morgane. Merci de votre fidélité aux grandes gueules, voyez c'est récompensé.
Eh ben merci à vous, merci à toute l'équipe.
Salut Morgane, à bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Patrick Cohen reste avec nous, on a parlé de son livre Les Mystificateurs aux éditions Flammarion. Est-ce qu'il est capable de traiter de mystificateurs les gens de la commission sur l'audiovisuel public?
Tu veux parler de Charles Allon?
Charles Allon. On va parler des gauchistes. Certains, qui sont oui. à l'audiovisuel public.
C'est qui?
Dans son instant. Ben justement, on aura peut-être des noms. Allez, Patrick Cohen, reste avec nous. À tout de suite.
Sur RMC, gagnez votre séjour à Europa Park Resort. Plus de 100 attractions et spectacles. Un nouveau quartier dédié à Monaco et rue Lantica, l'univers aquatique.
RMC, 9h, midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Poncet, le cheminot, Barbara Lefebvre, l'enseignante, Abel Boyi qui est avec nous, l'éducateur. Tiens, après-demain mercredi, on a Charles Alloncle qui va être dans les GG, dans les grandes gueules. Le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel.
Votre ami.
Et vous avez une question à lui laisser là ou un petit quelque chose à lui dire
Je serais curieux qu'il puisse nous dire. Enfin, en étant contredit, hein, mais je vous fais confiance là-dessus, pour nous dire réellement, en réalité, ce que sa commission d'enquête, il y a eu 230 personnes auditionnées quand même, a permis de révéler sur le fonctionnement de l'audiovisuel public, parce que moi, je ne sais toujours pas.
Mais elle n'était pas utile, cette commission, quand même, pour expliquer aux Français comment fonctionne l'audiovisuel public, où va l'argent, qui travaille pour l'audiovisuel public, notamment la question des sociétés privées.
Sûrement.
Alors peut-être que Charles Alloncle avait le rôle du procureur, mais est-ce qu'il n'était pas normal aussi
Alors, y a
de
deux
dire à quoi servent ces 4 milliards
absolument.
D'euros.
Absolument. Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que les deux sociétés visées, c'est-à-dire Radio France et France Télévisions, sont sans doute les sociétés les plus surveillées et les plus contrôlées de l'univers public par la Cour des comptes, par les commissions culture des deux assemblées, par le ministère de tutelle, par l'ARCOM, pour ce qui est du pluralisme. Mmh. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que dans le cadre de la commission, le rapporteur et le bureau de cette commission ont à disposition des milliers de documents transmis par Radio France et France Télévisions.
Les salaires, sur la table.
Nos salaires, les contrats avec les maisons de production, qui produit, où va l'argent, etc. Tout est là.
Donc la transparence
tout est
là.
Donc pour faire l'enquête, il n'était pas nécessaire de jouer ce que le président de la commission lui-même, ce matin, il a parlé de voyeurisme et de tribunal populaire à propos de sa propre commission qu'il a présidée et de l'action de Charles Alloncle, et je peux me contenter de reprendre ses propos.
Alors, il y a l'utilisation de l'argent public, puis il y a aussi le biais idéologique. Si on écoute Charles Alloncle, il estime que le service public est à gauche et que c'est essentiellement des gens de gauche qui prennent la parole dans le service public. Ça, c'est revenu souvent dans ses critiques, et dans les questions, dans le questionnement.
Oui, encore faut-il le prouver. Moi, ce qui m'a choqué...
De gauche pour travailler à France Télé.
Ce qui m'a choqué, qui a été peu relevé quand même dans les commentaires sur cette commission, c'est cette ingérence inédite, et je crois jamais vue, dans une démocratie et dans une enceinte parlementaire, qui a fait questionner des députés sur les choix des journalistes dans leurs éditos, dans leur choix d'invités. On a demandé à Léa Salamé, par exemple, à Charles Lalonde, l'a demandé à Léa Salamé, pourquoi elle avait invité Xavier Bertrand plutôt que Philippe de Villiers, alors que le premier vend moins de livres que le deuxième. Enfin, mais Léa Salamé a dû justifier de ses choix. Moi, on m'a pas questionné. Il m'a pas questionné quand je suis venu, et c'est venu après auprès des. On m'a demandé pourquoi j'avais fait un édito. Alors j'avais fait un édito au lendemain de la démission de Jack Lang. C'était Jack Lang, ombre et lumière. Alors. C'était clair, hein. C'était l'allusion aussi à la phrase qu'il n'a d'ailleurs pas prononcée en 81 sur le pays est passé
de l'ombre à la lumière,
de l'ombre à la lumière Mitterrand. Mitterrand. Et il a gardé la partie lumière et il a dit mais pourquoi Patrick Cohen a-t-il dit que Jack Lang avait été un grand ministre de la culture? Parce qu'il a été un grand ministre de la culture, mais il a oublié la première. Enfin, c'est ce questionnement politique à propos de contenus éditoriaux et je crois quelque chose de d'inouï. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous demande
parce que ça suit l'histoire du déjeuner, ça suit l'histoire du fameux déjeuner que vous aviez eu avec des cadres du Parti Socialiste. Oui, enfin le rendez-vous que vous aviez dans ce café.
Oui, il faut expliquer, il faut rappeler.
Patrick Cohen, il est instrumentalisé, il est au service de la gauche.
Vous étiez avec Thomas Legrand dans un restaurant avec des cadres du Parti Socialiste et on vous a reproché.
Donc il est en pleine connivence avec avec la gauche, Patrick Cohen,
dans des propos volés avec des phrases.
Mais est-ce que, sérieusement, est-ce que ce procès qui est fait sur un biais idéologique à France Télévisions est totalement abscon ou est-ce que ça fait réfléchir en disant effectivement, est-ce qu'il manque un peu de pluralisme à France Télé, est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus éditorialiste de droite, quand je dis France Télé, France Inter, du visuel public, est-ce que c'est quelque chose qui fait réfléchir les équipes,
bien sûr.
Effectivement, on remplit notre mission.
C'est un débat légitime, mais pas comme ça, pas de là, cette manière-là.
Donc si le débat est légitime, ça veut dire qu'il y a un biais.
Alors comment il faudrait le positionner, le débat, pour qu'il soit légitime à vos yeux?
C'est un débat légitime parce que...
Mais c'est un débat qui est dans l'espace public.
Parce que le pluralisme est nécessaire partout, aussi bien sur nos antennes, sur vos antennes, dans le débat public, sur ce que doit être l'audiovisuel public et la façon de respecter tous les points de vue et de traiter l'information.
France Télévisions et France Inter fustigent en permanence CNews, mais voyez par exemple le dimanche soir, quand Julien Drey est face à Gilles-William Goldnadel, il y a un face-à-face et ils sont pas d'accord.
C'est un peu la même chose maintenant quand même.
Oh non, Julien Drey
a beaucoup évolué.
Non, parce que vous écoutez pas. Moi j'écoute et je vous dis
c'est pas le Julien Drey qu'on a connu.
Faudrait ce genre de confrontation à France Inter.
Pardon, j'ai beaucoup de respect pour Julien Drey, mais
c'est un socio
ils sont d'accord sur tout.
Ah non, pas du tout.
Mais pardon.
Non, moi j'écoute. Non, là j'ai écouté dernièrement sur
quel sujet ils sont pas d'accord.
Effectivement, je pense que sur la question, par exemple, du racialisme et de l'antisémitisme de LFI, ils vont être d'accord, mais je pense que là, tous les 7 Français sur 10 sont d'accord
avec
eux.
Sur quel sujet ils ne sont pas d'accord?
Moi, je les ai écoutés sur la question de la guerre en Iran, sur la question sociale, sur la question des carburants. Ils peuvent avoir des avis divergents, mais cette pluralité, elle existe sur les chaînes. D'ailleurs, sinon, ils seraient taclés en termes de temps de parole sur le privé. Non, je suis désolée.
C'est News, c'est la gauche et la nuit.
Mais sur France Inter, c'est la gauche tout le temps, de 8h du matin à 20h le soir.
Vous disiez le débat est légitime. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un biais dans le service public, un biais idéologique? Est-ce que vous pouvez jouer les grandes gueules là au micro, Patrick, en disant oui ou non?
Moi, je crois pas, mais je suis dedans, je suis pas le mieux placé.
Quand Natacha Polonia arrive à France Inter, quand même, il y a une bronca dans l'édition, parmi les journalistes.
Elle est toujours là, Natacha Polonia.
Oui, mais quand elle arrive, parce que comme elle est pas de gauche, quand même, il y a une bronca parmi les journalistes et les équipes en interne.
Même Benjamin Duhamel, Benjamin Duhamel a fait polémique. C'est pas assez à gauche pour eux.
Il est là.
Oui, non, mais vous voyez bien.
Il est à l'antenne tous les matins.
Vous jouez sur les mots. Vous jouez sur les mots.
Il est islamo-gauchiste ou quoi? Enfin, moi, j'étais en face de lui dans cette émission. Moi, Patrick Cohen, quand je l'entends, j'imagine pas que Patrick Cohen va voter Poutou. On va se détendre un peu. D'ailleurs, les gauchistes de France Inter, ils sont partis chez Nova.
Non, mais
la clique, on est d'accord.
Patrick Cohen est un social traître.
De penser que.
Donc, ça s'est recentré. Donc, il y avait peut-être un problème.
Mais non, mais de penser que France Inter, c'est un repère de gauchistes et tout, ça m'a toujours fait rigoler, en fait.
Pour Paul Vanier de l'Ogu, France Inter, c'est déjà le fascisme. Ça, on est d'accord. Mais alors, imagine-toi, pour le reste. Mais
on doit être au juste milieu,
pas loin. Ouais. Mais n'empêche qu'on verra plus souvent de l'Ogu et Paul Vanier chez vous qu'on ne verra peut-être Marion Maréchal. Mais... Ou quand non. on vient, on lui ne posera des questions.
Non, ça, on a des règles de pluralisme
qui
sont les mêmes pour tout le monde. Et
oui, mais je parle aussi du ton de l'interview, parce que quand on voit Sonia De Villers qui interview Marion Maréchal, je n'ai pas vu Sonia De Villers être aussi menace avec des
pneumatiques
panneaux.
Non, mais dans la commission, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que, en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on ait besoin de boîtes privées. Avec le payer l'argent public pour produire des programmes de qualité. Moi, je suis désolé. Moi, je regarde en priorité le service public. Ça, c'est un basique de ma famille, et donc je continue. Mmh. Moi, ça me choque de voir des programmes produits par le privé, alors qu'il y a quand même moyen d'avec des gens du public de faire des programmes de qualité. Et avant, c'est comme ça que ça marchait. Et les programmes n'étaient pas plus décérébrés qu'aujourd'hui, en fait. Moi, je trouve que, alors, par exemple,
Bernard Pivot ne travaillait pas pour une société privée.
Quand on voit les sommes, je me dis merde, pourquoi on fout pas ça au public avec des gens, Bernard Pivot, même. Moi, je trouve que le sac de minuit, c'était produit par du privé, le sac de minuit, par exemple.
Je sais pas, mais enfin, ça fait assez longtemps que les sociétés privées produisent. Ça a d'abord été la fiction, des sociétés comme Pathé, Gaumont, etc. On produit beaucoup de téléfilms des années 60, 70, etc. Je suis assez bien placé pour le savoir, puisque comme je présente Rembovina sur LCP, l'accès aux archives, parfois on me dit, ah ben non, ça appartient, les droits sont à Gaumont ou à Pathé, etc. Donc il y a eu comme ça un apport. Et par ailleurs, je ne crois pas que dans aucune société de l'audiovisuel public en Europe, tout soit
produit
en interne. On peut regretter l'époque des animateurs.
Mais c'est dans le cahier des charges, même, de France Télévisions.
On a connu les animateurs, rappelez-vous.
Effectivement,
c'est dans le cahier des charges.
Jeune gauchiste, j'ai commencé à m'inquiéter quand je voyais les Patrick Sébastien et tous les autres, que les Guignols apprenaient les voleurs de patates, prendre des ronds phénoménaux quand même sur France Télévisions.
Mais au-delà des critiques faites au service public, est-ce que le drame, peut-être, dans nos métiers, désormais, ce sont les réseaux sociaux et derrière, chaque compte se cache quelqu'un qui veut porter plainte, qui trouve que c'est insupportable de tenir tel ou tel propos, et que c'est très compliqué de faire ce métier aujourd'hui, qu'on soit dans le privé ou dans le public, par rapport à ça. Est-ce que vous avez vu l'évolution, Patrick ?
Absolument, j'ai vu cette évolution qui fait que le métier n'est plus le même que celui que nous avons connu, vous et moi, à nos débuts, mais j'ai envie de vous dire... Dans ce débat-là sur l'information, ce qui nous anime, puisque moi je suis pas dans le divertissement, dans ce débat-là, c'est pas un match public-privé. Je pense qu'on est dans le même bateau, je dirais, là, ici, BFM, RMC, comme le groupe M6, comme le groupe TF1. Des médias qui cherchent, de façon imparfaite sans doute, à s'approcher du réel, à essayer de toucher à une forme de vérité, à respecter les faits. Et puis il y a d'autres médias, des réseaux aussi qui essayent de produire des vérités alternatives. Et je pense que le danger, il est celui-là. Le démantèlement, les attaques que subit le service public, elles visent aussi, d'une certaine façon, les groupes privés aussi.
Et justement, mais est-ce que vous faites partie de ceux qui disent faut fermer CNews?
Je fais partie de ceux qui pensent que, dans l'état actuel, c'est purement factuel, je pense que CNews est hors la loi.
Ah bon ?
La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision.
C'est vrai.
Et cette loi de 86, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews.
Merci Patrick Cohen d'être passé par les GG, les mystificateurs aux éditions Flammarion. Merci d'être venu discuter. Dans un instant, on va revenir à ce qui est l'actualité, mais surtout la vie quotidienne. L'essence, le litre de gasoil au-dessus des 2,50 €. Je me souviens qu'ici, on avait dit, vous allez voir, il va peut-être taper les 3 €. On a 18% de stations qui sont hors approvisionnement maintenant. Venez en discuter avec nous au 32-16. Midi moins 25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, on termine la discussion, on termine les GG avec vous, bien évidemment, au 32-16, aujourd'hui avec Bruno Poncé, avec Abel Boyi, avec Barbara Lefebvre sur RMC, la radio RMC Story, la télé, il est midi moins 20, on va parler un peu de la benzina, gazole.
Je prends moi ma voiture. Non, je fais gaffe à comment je consomme. On va pas vraiment accélérer si on arrive à côté d'un feu rouge. On y va doucement. Je fais pas des grosses accélérations.
C'est la première fois que je fais le plein depuis la crise. Je roule très très peu. Je prends les transports, le scooter. J'ai un scooter électrique.
La voiture, je l'utilisais régulièrement pour aller au travail, etc. Mais aujourd'hui, je peux pas me permettre d'aller au travail avec mon véhicule.
Aller au parking.
Il y a pas le choix. On nous parle d'électrique, on nous parle de ci, on nous parle de ça, mais il faut avoir les moyens.
Il faut avoir les moyens de plus en plus, effectivement, parce que l'essence continue de, le prix de l'essence continue de monter. On a 18 stations, là, qui sont à sec en cours de
18%. 18%, oui. Ça fait une station sur 5.
En cours de réapprovisionnement.
Alors, c'est en rupture. Alors, ce sont les stations Total, parce que Total a fait une opération. Ils ont décidé de plafonner leur prix. Cette opération s'arrête demain. On va voir ce qui va se passer d'ailleurs à partir de demain, parce qu'on voit la situation sur place, elle ne se débloque pas, donc il n'y a pas de raison objectif que les prix baissent d'ici quelques jours. Le baril de pétrole est au-dessus des 100 dollars, donc il y a le problème Total, il y a le problème du diesel qui coûte plus cher que l'essence, parce qu'on a un problème de réapprovisionnement en diesel. Nos raffineries ne travaillent pas suffisamment sur diesel, donc là du coup on est sur le marché fait exploser le diesel, qui pourrait arriver à 3 euros, c'est ce que disait le président de l'association de 40 millions de consommateurs, 40 millions d'automobiles, c'est à peu près les mêmes. Oui, ils disaient ça il y a quelques semaines, mais on y arrive. Et pour l'instant, le gouvernement ne veut pas d'aide générale, c'est des aides ciblées. On va parler cette semaine des infirmières libérales qui vont sans doute avoir quelque chose. On a parlé aussi d'un prêt pour payer son carburant pour les entreprises. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous trouvez que le gouvernement joue trop la montre?
Mais tu vois, il y a un site qui est plutôt bien fait qui s'appelle Pénurie Carburant, là, parce que tu disais, il y a les stations Total, mais il n'y a pas que les stations Total, hein, aujourd'hui, qui sont en pénurie. Je regardais là.
En diesel, alors?
Ben, il y a en diesel, effectivement, mais tu vois, je regardais station Avia, station Esso, là, il y a.
Alors ça, c'est les gens qui font aussi.
SP95.
Mais ça, c'est des gens pénurie. Qui ont peur de la pénurie. Et qu'il alimente en quelque sorte en allant faire le plein.
Moi, j'ai acheté une tonne de PQ ce week-end. J'étais pas sûr de
comme Bruno Poncet. Abel Boyer, est-ce que le gouvernement doit en faire plus ou est-ce qu'il a raison d'être prudent et de cibler simplement les professions les plus touchées?
Bah, en fait, le gouvernement est sur une partie de poker parce que je pense qu'ils espèrent que le conflit finisse rapidement. Or, on ne sait pas avec Trump qui reporte sans cesse sa promesse des enfers vis-à-vis de l'Iran. On ne sait pas où on va. Je discutais avec une dame ce week-end. Elle me disait que chez elle, en Vendée, elle avait trouvé une pompe où le gazole était à 2,90 déjà et que du coup, elle ne sortait plus. Moi, je pense que le gouvernement aurait dû essayer d'anticiper. Hein. Moi, je n'en démords pas. Je le répète depuis chaque émission. Pour moi, que le gouvernement prenne moins de taxes, même si c'est sur 2-3 mois. On plafonne le prix, je sais pas, à 1,70 et après on voit comment ça évolue. Parce que quand tu poses la question de Total, une fois qu'ils vont finir leur opération, eh ben leurs tarifs vont flamber comme pour les autres stations, tout simplement.
Mais je voudrais quand même le dire, il n'y a pas de pénurie, il y a le fait opération promotionnelle a créé
une surconsommation,
une pénurie technique, uniquement dans les pompes Total et encore même pas toutes les pompes Total. Donc, faut arrêter de dire aux gens qu'il y a de la pénurie. Il y a aucun risque de pénurie et on va encore le rappeler. Les principaux fournisseurs de pétrole pour les Français, c'est les États-Unis, le Nigeria, le Kazakhstan,
la Norvège,
l'Algérie, la Libye. Donc, je crois que nous ne sommes pas vraiment tenus par les. Donc, encore une fois, il y a là des profiteurs de crise de toutes sortes et il faut arrêter de faire peur aux Français. Et l'opération Total n'était qu'une opération de promo. La question va se poser par la suite.
Il n'y a pas une pénurie, mais il y a quand même un problème sur le gasoil parce que, et d'ailleurs, le ministre de l'Industrie nous l'a redit la semaine dernière, mais le gasoil, en fait, il n'est raffiné que dans les pays étrangers et que nous, on ne raffine pas. Ah donc, en fait, c'est pour ça qu'on en importe vachement. Donc, en fait, tu as moins de. Et comme le gasoil est la chose qui sert le plus.
Comment il s'appelle
Sébastien Bernard, je crois.
Martin.
Ah, putain, j'étais pas loin.
T'avais la moitié.
Ouais, par contre, il y a un truc qui m'a un peu choqué là ce week-end, c'est que j'ai entendu dire, et Breton, je crois qu'il l'a redit aujourd'hui, c'est qu'ils vont aider certaines catégories de professionnels.
Oui, mais c'est
et dedans, ils ont mis les agriculteurs.
Ils ont commencé les arrêter.
Les agriculteurs, excusez-moi, mais pourquoi on aiderait les agriculteurs qui, eux, roulent au rouge? Leur matériel agricole peut rouler au rouge. Ce sont les seuls en France. Pourquoi eux, on les aiderait? Mais pas le vin rouge, hein. Le rouge, c'est-à-dire que c'est du,
attention, pas
c'est du espèce de fuel, on met du rouge dedans pour bien faire voir que c'est pas le même que l'autre. Donc moi, ça me fait un peu dire, tout ça, on leur dit, on donne aux agriculteurs, le soi-disant, ils seraient touchés, alors qu'eux, ils ont rien réclamé. Non, parce que vu qu'il y a le Mercosur qui est mis en place.
GNR. Simplement, tu citais Thierry Breton. Thierry Breton a quand même dit ce matin que le fameux surplus fiscal, parce que ça y est, hein, pendant longtemps, il n'y en avait pas, puis finalement, on s'aperçoit qu'il y en a, et c'est au moins 250 millions d'euros, ce qui n'est pas rien.
On a Geoffrey qui est avec nous.
Doit être redonné aux automobilistes.
David Amiel, le ministre des Comptes Publics, a dit non, on ne garde rien, il n'y a pas de surplus. Donc il faut vraiment qu'ils s'entendent. Il faut vraiment qu'ils s'entendent au gouvernement.
Geoffrey, bonjour.
Oui, bonjour et grande gueule.
Du côté du Tarn-et-Garonne, vous, routiers, vous êtes confrontés à autre chose en ce moment. C'est-à-dire qu'on siphonne les réservoirs, quoi.
Bah ouais. Ah oui. Ça, j'ai un collègue qui s'est fait faire 600 litres de gasoil sur une heure de repos. Ouais, 600 litres en moins. Et c'est arrivé aussi dans le Rhône, ça m'est arrivé moi il y a 2-3 mois aussi, avant la crise de l'Iran. Mais ouais, c'est souvent qu'on se fait siphonner de plus en plus.
Comment vous faites, Geoffrey, pour surveiller, pour éviter cela?
Ah bah on peut pas, on dort, ils viennent la nuit. Hein. Ils viennent la nuit, ils ont des cuves carrément dans des camionnettes, avec des pompes électriques, ils siphonnent et ils se barrent.
Parce que j'ai entendu certains de vos collègues qui désormais ne vont plus sur les aires d'autoroute et garent leur véhicule ailleurs.
On va au resto ou alors les parkings sécurisés, mais les parkings sécurisés c'est 60 euros la nuit.
Eh oui.
Ouais. Donc du coup bah c'est restaurant routier qu'on a des caméras, parce que sinon on n'a pas le choix. Quoi. Les aires de repos où il n'y a rien, vous vous faites braquer. Vous faites braquer. Et puis là, vous voyez, j'ai fait le plein samedi, une station totale, vu qu'on a des cartes totales, nous. J'en ai eu pour 450 litres. C'est la moitié du réservoir. Hein.
Ah ouais.
450 litres, 950 euros.
Ah ouais. Mais il n'y a pas des systèmes d'alerte?
Ah ouais. Si, mais ça sonne pas, en fait.
Ah bon?
On a des capteurs sur les réservoirs, mais on n'a pas d'alerte au niveau même du camion.
Ça sert à quoi, alors? C'est des capteurs qui servent à quoi s'il n'y a pas d'alerte?
Bah rien.
Ah ok, puis, voilà.
C'est un truc qui vous réveille.
De toute façon, s'ils veulent vous siphonner, ils vous le siphonneront. Hein. Vous pouvez fermer le réservoir, ils vont vous percer le réservoir.
Les réservoirs sur... Alors, question un peu idiote, mais les réservoirs sur les camions, ils sont positionnés où?
Sur le côté.
Sur les deux côtés. Enfin, moi j'en ai deux, donc c'est sur les deux côtés.
D'accord. Mais
donc c'est loin de la cabine, hein. C'est loin de la cabine, c'est facile.
Bah elle est un peu en retrait, ouais.
D'accord.
C'est
pas si loin que ça, en fait.
Oui, quand tu
te fais braquer sur une aire de repos et que tu dors dans ton camion, surtout tu descends pas.
Bah,
parce que les mecs en face de toi, ils risquent d'avoir d'autres problèmes.
Exactement.
C'est ça.
Il n'est pas venu tout seul, le mec, à faire ça. Ils sont plusieurs avec leur petit camion.
Allez-y, Geoffrey, ce que tu disais.
Je rejoins Bruno. Hein. Moi, le jour où on me siphonne, je descends pas. J'appelle les flics ou je klaxonne, mais pour essayer de les mettre en fuite.
Plus prudent.
Je descendrai pas.
Geoffrey, merci de ce témoignage.
Geoffrey,
bonne route à vous. À bientôt dans les grandes gueules. En Saône-et-Loire, on a Manu qui est chef d'entreprise dans le bâtiment. Bonjour, Manu.
Bonjour les GG.
Comment vous absorbez-vous le surcoût de l'essence, alors, du carburant?
Alors, moi, personnellement, moi avec mes véhicules, mes propres véhicules et le véhicule de mon entreprise, moi, j'ai aucun surcoût de gasoil. Moi, je paye... Moi, j'ai un véhicule que... Alors, je sais qu'il y a certains qui sont pas d'accord, qui vont pas être contents, mais j'ai un gros Dodge Ram qui fonctionne à 90 centimes le litre, parce que je fonctionne au GPL, ou à le 85. Mon véhicule, mon véhicule fourgon, moi, je fonctionne avec les entrepreneurs du bâtiment et puis beaucoup d'agricoles. Donc, je fonctionne directement au rouge. C'est interdit, je le sais, mais je le fais quand même. Parce que sinon, vu les kilomètres que je fais, c'est 400 surplus, c'est 400 euros de surplus à la semaine. Donc, moi, je suis la vache à lait. Je fais partie des gens qui se considèrent comme la vache à lait de la France. Donc, moi, j'arrête de travailler un mois dans l'année parce que sinon, je donne 25% de plus à l'État. Donc, plutôt le pognon que je leur lâche, moi, je me démerde comme je peux parce qu'il n'y a personne qui va venir à ma rescousse. Il n'y a personne qui va pleurer sur mon dos. Donc, moi, je me démerde comme je peux. Et j'en ai marre d'entendre les gens couiner. Il n'y a pas que l'électrique dans la vie. Parce que je l'ai déjà dit une fois sur un forum avec Fred Hermel. On avait parlé un samedi. Moi, je suis dans le domaine du bâtiment industriel et je monte du photovoltaïque. Si tous les Français, ou une grosse partie des Français, passaient au véhicule électrique, la France serait en shutdown, comme ça a été en Espagne il y a un an, parce que le circuit, c'est bien beau d'acheter une voiture électrique, sauf qu'il y a quelque chose qui vous amène l'électricité, c'est le réseau. Aujourd'hui, on a un réseau qui est vétuste.
Exactement.
C'est comme si vous aviez une 2 chevaux et que vous mettiez un moteur de Ferrari à l'intérieur. Et ben, au bout d'un moment, il va se passer un problème. Et moi, il y a des régions en France, je vais pas nommer les régions, mais il y a des régions en France,
ici,
en
allez-y.
De la France, ben, je vais plus dans le 36. Je vais plus dans le cas, du moins, j'ai des clients, hein. Mais,
36, moi, je comprends.
Je ne peux plus monter de bâtiment dans le 36, je ne peux plus monter de bâtiment dans le 41, je ne peux plus monter de bâtiment dans le 86, parce que il y a des zones, maintenant, elles sont, comment dire, on peut plus rajouter de panneaux photos ou d'éoliennes, bien qu'il n'y en ait pas dans...
Mais mon cher Manu, c'est fondamental ce que vous êtes en train de dire. Parce que qui a laissé le réseau électrique se dégrader et ne l'a pas modernisé?
J'ai une petite idée.
Oui, qui?
Emmanuel Macron.
Voilà, merci. Merci pour cette conclusion.
Merci Manu d'avoir été avec nous dans les GG. Bonne route, bon courage. On aura l'occasion de reprendre la discussion. Merci d'être passé par le 32-16. On se retrouve demain, bien évidemment, entre 9h et midi. Demain, qui sera là? Charles Consigny sera là. Laura Vartan-Martinez sera là. Et puis nous serons aussi avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. En attendant, les grandes gueules, vous les rattrapez sur les réseaux sociaux, vous les rattrapez en podcast avec cette extraordinaire discussion sur le ragondin du bois de Boulogne.
Je l'ai raté celle-là. Je vais me rattraper.
J'espère bien.
Tu seras pas déçu. Dès le midi.
T'as raté le meilleur.
Écoutez.
La passion ragondin de Barbara.
Bonjour à tous. Nous allons évidemment nous aussi parler du prix exorbitant des carburants. On a trouvé des stations quand même à 2,87€ le gasoil.
Oui, tu vois, on est pas loin des 3.
Ce matin, oui. Alors justement, on va se demander si Total doit prolonger sa ristourne pour soulager les automobiles. C'est que Total cap ses prix à 1,99€ pour le sans-plomb, à 2,09€ pour le gasoil. On saura bientôt si Total continue de bloquer ses prix ou pas. Est-ce qu'ils doivent le faire? Eh bien, vous nous dites tout au 32-16. On parlera également de cette proposition de loi demain, pouvoir débloquer exceptionnellement 5 000€ de son épargne salariale. Est-ce que vous y seriez favorable? Alors, on peut se dire que oui, mais il y a plein de gens qui sont contre, notamment les syndicats. On aura Benjamin Hamar qui nous expliquera pourquoi dans un instant dans Estelle Midi. 74% des Français favorables au travail le 1er mai. Mais est-ce que travailler le 1er mai, pour vous, c'est une aubaine parce qu'on est payé plus, ou est-ce que c'est un sacrilège? Eh bien, écoutez, on vous posera la question. Ce sera à 13h30. Vous travaillez le 1er mai ou pas?
Travailler le jour de la fête du travail, moi, ça me choque pas. Oui, les journalistes, on travaille le 1er mai.
Ah oui, on est payé double.
Bah oui.
Ah oui.
Mais c'est pas une question d'être payé double.
Ouais. Si.
Et le tu préfères, c'est quoi?
Attends. Le camping. Tu sais qu'il y a 30 millions de personnes qui vont fréquenter les campings français.
Voilà. Ouais, le camping n'est plus le camping. Maintenant, c'est des bungalows et c'est des.
Tu peux avoir des places en tente,
ou alors en camping-car.
En tente, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
T'as toujours un petit espace réservé.
Le bungalow.
Toujours est-il que c'est enfin un secteur qui marche en France. Mais nous
dans le bois de Boulogne, je vois un espace tente des fois.
Oui, ça y est, dérapage.
Et quelques fourgons aménagés, mais
c'est pas du camping.
Je ne crois pas. Je ne sais pas.
Tu sais, il est naïf, Alain. Faut
m'expliquer.
C'est quand même fou. Cette naïveté. On en parlera de camping, de vacances à 14h. Et le tu préfères, comme c'est le lundi de Pâques. Oui. Tu préfères chocolat de supermarché ou chocolat de chocolatier?
Chocolatier, dis donc.
Ah bon? Moi, franchement.
Quelle horreur. Tu me donnes une tablette de crunch, je suis la plus heureuse du monde.
Ah ben moi, le Kinder.
Mais c'est trop cher le chocolatier. Et franchement, c'est toujours des chocolats. Mais c'est ma mère, la nana, mais c'est
bon. Moins.
Pas du tout. Tu demandes. Non, parce que quand tu vas chez un vrai chocolatier, il y a un service client. Tu poses des questions, tu demandes l'amertume du chocolat, du 85.
Les orangettes, tu les trouves chez le chocolat.
Mais ils mettent toujours des espèces d'écorces d'orange. T'as envie de leur dire, mais faites-moi un chocolat.
Achetez des mendiants chez un vrai chocolatier. Achète des mendiants.
Des petits gants en soie pour aller chercher un chocolat. Ça va là-haut, c'est pas une bijouterie.
Bonne émission avec Estelle. Rendez-vous au 32-16. Qui sera là?
Qui sera là? Fred Hermel, Yael Mellul, Benjamin Hamar et Julie Brou. Voilà.
Allez, amusez-vous bien jusqu'à 15h.